Chapitre 16. Nils s'approcha du groupe en hochant la tête. Ils ont détecté une couche extérieure. La matière est un alliage, je crois. C'est à approfondir, mais dessus est posée la source de la lumière. Pour l'heure, ils parlent de panneaux lumineux. Comme des écrans de LED ? S'étonna Ronnie. De cette taille-là ? Bah, j'imagine. Je n'ai pas eu le détail. Comment vous savez ça ? Demanda Eil. Nous n'avons reçu aucun communiqué. J'ai mes sources, croyez-moi, c'est fiable. L'annonce ne va pas tarder, ils la rédigent. Ronnie s'affala sur la table, la tête entre les bras. 8 jours de boulot pour rien. Franchement, vu notre dernière supposition, je suis plutôt rassurée qu'on ait tort, lança Zoé. Un putain d'ovni, répéta Ronnie sous le choc. Tout ça pour ça. Ce n'est pas parce que c'est technologique que c'est forcément extraterrestre, fit remarquer Aïl. Je vois mal les Shintok fabriquer ce truc dans leur coin pour nous laisser ensuite jouer aux devinettes pendant des mois. Quel intérêt ? Faites attention aux mots que vous employez, Ronnie, s'énerva Zoé. Ce n'est pas la première fois qu'il avait ce comportement, et il commençait à le trouver un peu trop à son aise dans la provocation et l'insulte gratuite. Il leva la main pour signifier que ça n'avait pas d'importance, ce qui agaça encore plus la romancière. Ah, il a raison, intervint Belle. Même derrière la science peut se cacher une main plus grande encore que celle qu'on croit observer. Ok, on a pigé, fit Ronnie. Vous n'êtes pas subtil, Miss Simmons. Vous pensez à quoi ? Demanda Ethan en se tournant vers le philosophe. Je l'ignore encore, mais à ma manière, je me range à l'avis de Ronnie. Aucun pays n'a la technologie et l'argent pour faire ça. Une entreprise ? Proposa Ethan. Les empires type Google, Amazon et consorts, eux, ils pourraient. Aïl dodelina de la tête sceptique. Ils ont, par définition, une logique économique. Il faudrait qu'ils dépensent l'intégralité de leur fortune, et même plus encore, pour parvenir à fabriquer un objet céleste de presque 1 kilomètre de diamètre, capable de se maintenir en l'air, sans qu'on sache par quel moyen d'ailleurs. Tout ça dans quel but ? Il n'y a, commercialement parlant, aucune évidence. Et même si certaines de ces entreprises sont dirigées par des mégalos bien allumés, j'ai peine à concevoir une vision idéologique. Il n'y a rien qui aille en ce sens. Non, je ne sais pas, mais nous sommes là pour trouver, n'est-ce pas ? Ah, et il avait raison, considéra Zoé. Ils étaient là pour ça, formuler de nouvelles hypothèses. Mais ils allaient avoir besoin de davantage d'informations s'ils ne voulaient pas partir dans une nouvelle direction fantasque. Elle examina les visages pensifs autour d'elle. Ronnie. Le génie cultivé dont le cerveau tournait à 200 à l'heure, mais avec zéro empathie derrière. Un cliché, d'une certaine manière. Il était tellement peu tourné vers les autres qu'elle le soupçonnait d'avoir une petite couleur autistique qui expliquerait qu'il soit à ce point capable de tout retenir en restant centré sur lui-même. Belle était là pour la spiritualité, supposa Zoé. Mais pour l'heure, cette dernière ne voyait en elle que la fanatique aveugle. Rien de la plasticienne, de son rapport à la matière, à la forme. L'œuvre ou l'art. Tout ça paraissait bien loin. Aïl était le pont des réceptiques, acceptant tout le monde avec ses différences. Il aimait créer des ponts entre les berges, parfois les plus éloignées. Un agrégateur, très utile. Ethan, c'était l'observateur, le contradicteur placide, testant les hypothèses de chacun. Parce qu'il n'en avait pas lui-même ? Restaient Nils et elle-même. Les deux qui se demandaient quelle était leur valeur ajoutée. La normalité, la sensibilité. En définitive, ils formaient un groupe hétéroclite, monté pour s'affronter, et au bout du compte, dégager des consensus éprouvés, solides. Ils n'avaient pas été réunis par hasard. L'enceinte dans le plafond grésilla, et la voix d'Itishri Kapoor leur annonça qu'une réunion de l'ensemble d'icônes était programmée pour l'après-midi. « On va être fixés. » déclara Ronnie. « $100 que c'est un ovni. Qui prend le pari ?» La salle circulaire accueillait les 4 cellules d'icônes. Emmett Lloyd et Itishri Kapoor se tenaient debout, au centre. Lui arborait toujours ses grosses lunettes carrées et elle sa blouse sur un sari d'une couleur différente chaque jour. Dans l'assemblée, Zoé aperçut Matteo Villon, le conseiller de l'Élysée. S'il était là, cela signifiait que ce qui allait être dit était important. Il ne se déplaçait pas pour rien. Un peu plus loin sur sa gauche, Zoé vit Simon. Ils se fixèrent un bref instant, et cette fois, elle décida de le saluer d'un mouvement de tête auquel il répondit avec un sourire franc. Ce type était désarmant de simplicité. Elle l'avait snobé à outrance depuis leur arrivée, mais il ne lui en tenait pas rigueur. Zoé ignorait si elle lui avait pardonné, si elle était passée à autre chose, mais elle avait eu envie de rondeur, d'arrêter les conflits stériles, et avait obéi à son instinct. Lorsque le silence se fit, Emmett prit la parole en premier. La lumière diminua et un projecteur afficha une image de sphère sur l'écran blanc qui venait de descendre sur un pan de mur. « La frustration est grande pour tout le monde, mais voici enfin les premières constatations qui ont été effectuées sur notre ami. » Il avait marqué une très courte hésitation avant d'utiliser le nom, puis déroula la suite. « Tous les détails sont dans le document que nous allons vous remettre, mais laissez-moi vous faire une brève synthèse. Pour commencer, sphère tourne sur elle-même, parfaitement alignée sur son axe. Sa vitesse est d'une rotation par heure, très exactement. Parfaitement synchronisée avec notre découpage du temps, donc. Ça plaide pour une origine locale, chuchota Nils. Au contraire, c'est un signe d'adaptation, fit Ronnie. Ils veulent nous montrer qu'ils savent comment nous fonctionnons. Qui ça, ils? Tu veux dire tes extraterrestres? Se moqua Nils. Personne n'a pris ton pari, tu peux arrêter. Bels Simmons soupira bruyamment. Emmett Lloyd s'était interrompu pour guetter son auditoire. On pouvait deviner qu'il préparait l'effet d'annonce. « Sphère a une surface artificielle », dit-il, déclenchant aussitôt une réaction bruyante du public. « Sa densité nous permet d'affirmer sans doute possible qu'elle est dure, solide, probablement un alliage, mais pour l'heure, nous ne parvenons pas à définir lequel. » Il hésita à nouveau avant d'ajouter « Si tant est que nous le connaissions !» Un nouveau cliché apparut sur l'écran. Cette fois, un dessin de sphère. Un second cercle beaucoup plus ténu, tracé tout autour du premier, comme s'il s'agissait de sa propre atmosphère. Itishri enchaîna. Nous avons détecté deux couches de surface, jusqu'à présent. Celle plus dense, qui ressemble à l'enveloppe, que nous appelons l'écorce, est posée dessus. Une autre très fine, qui est celle qui émet la lumière que la sphère projette. Aucune jonction de ce que nous avons pensé être des panneaux n'a été détecté, ce qui laisserait supposer que la surface est une unique et gigantesque membrane lumineuse. « Sur une sphère de 800 mètres de diamètre ?» fit quelqu'un incrédule. « Nous allons procéder à des analyses plus détaillées pour vérifier s'il n'y a pas des jointures nanoscopiques. Tout est possible. » Un murmure s'éleva alors dans la salle, chacun y allant de son commentaire surpris. « Sphère était le fruit d'une technologie. » Ce que ça signifiait était énorme. Emmett Lloyd appela au silence en levant les bras. « S'il vous plaît !»« Merci. » « S'il y a bien une enveloppe double, nous avons également détecté un noyau. Nous ne parvenons pas à voir à l'intérieur. Aucun appareil jusqu'à présent n'a pu sonder au-delà de l'écorce. Toutefois, nous avons pu entendre quelque chose. » Nouveau murmure général. « S'il vous plaît !»« S'il vous plaît !» répéta Emmett afin de poursuivre. « Quand je dis entendre, c'est que nous avons détecté une vibration interne. Un son à l'intensité très faible, indétectable par l'oreille humaine depuis la plateforme, mais un son particulier. » Emmett et Itishri échangèrent un air complice, et pour autant dépassé. « Sphère émet une oscillation », expliqua la scientifique. « Pas n'importe laquelle, nous captons une onde continue et stable. Elle vibre sur la même fréquence et n'en sort jamais. 432 Hz, très exactement. » Ethan Gabriel, qui était assis à côté de Zoé, en fit tomber son stylo. Elle le ramassa pour le lui rendre et vit que le compositeur était abasourdi par la nouvelle. « C'est un problème ?» demanda-t-elle. « C'est la fréquence de l'harmonie absolue, » dit-il, bouche bée.